Bonjour, je suis Charlotte Champagne. Bienvenue dans un univers peuplé de curiosités, d'aventures et de partage de savoir. Vous êtes le genre de personne à avoir mille et une réflexions en même temps, à aimer les paradoxes, l'intrigue, parce que les histoires et les anecdotes, c'est la vie. L'idée ici est de raconter par épisode une story personnelle qui m'a interpellée et qui a pu vous arriver, et de l'analyser sous l'angle de la philosophie. Alors pourquoi la philo ? Parce qu'au-delà de son apparence farfelue et distante, la philo se retrouve partout dans notre quotidien. Mais surtout, elle est pleine de logique et de rebondissement. Alors mon ambition ici n'est autre que la transmission. Ne pas jeter les idées du passé qui nous semblent démodées, mais adopter un regard autre sur ce qui nous arrive, aussi ancien soit-il, qu'importe l'époque ou l'origine du philosophe. Alors si on essayait de détricoter nos péripéties sous l'angle de leur chef-d'œuvre.
Bonjour, nous voilà repartis pour une nouvelle analyse philosophique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que nous côtoyons tous les jours, sans ne plus vraiment y songer. Il fait partie de notre quotidien, et c'est un genre de filtre, ou plutôt une jauge de la qualité de nos actions, ou d'une manière de vivre en général. Il s'agit de la morale et de la dignité. Alors afin de l'analyser, j'aimerais vous parler d'une histoire personnelle. Un jour, je me suis retrouvée face à une vidéo d'une fille qui dansait avec la caméra fixée sur son postérieur, en bikini tanga. Plus tard dans la journée, je dis à mon conjoint que pour moi, ça ne se fait pas. Ce à quoi il me rétorque, d'accord, mais pourquoi ça ne se fait pas? Et là, je n'ai pas su quoi répondre, ou du moins pas objectivement. Quoi qu'il en soit, en commentaire de la vidéo, il était écrit quelque chose comme « Mon corps m'appartient, c'est une danse de la joie, je danse parce que j'aime ça, et ce, peu importe ce que vous en pensez. » Elle avait raison. Les mauvais jugements ne lui appartenaient pas, ou du moins, elle avait réussi à s'en dédouaner. Mais de mon côté, d'où venait ce sentiment d'indignation? C'était comme si c'était logique que cet acte soit vu comme un acte non respectable. En effet, selon la pensée générale, et surtout dans notre vision occidentale, exhiber son corps dénudé sur une vidéo n'est pas un acte moral, car il réside dans cet acte un manque de dignité par rapport à notre propre corps. Mon conjoint me dit ensuite: je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, c'est quoi la dignité? C'est quoi la morale? C'était tellement ancré en moi que je n'arrivais pas à y trouver un sens, une logique. On nous a toujours appris à ne pas se montrer dénudé, ne pas exagérer, à rester humble. Mais est-ce seulement le fruit de conventions sociales qui nous ont été instituées par nos parents, par la société? Ou est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que c'est ancré en nous, en tant que sujet singulier, en dehors de tout point de vue systémique? Était-ce de la jalousie, basée sur une concurrence féminine par exemple? Ou est-ce que c'était juste un jugement sur base de critères objectifs? C'est ainsi que je me suis lancée dans des recherches afin d'appréhender ces termes et comprendre mieux mes pensées. Alors au niveau de l'étymologie, la morale vient du terme latin mores, qui signifie les mœurs. Il s'agit de l'ensemble des règles de conduite et de valeurs au sein d'une société ou d'un groupement. Parmi ces principes moraux, nous retrouvons le terme dignité. La dignité, elle, vient du latin « dignitas », qui signifie la valeur, le rang, ou au sens ordinaire, la qualité de ce qui mérite le respect. Si on va voir du côté des philosophes, selon le philosophe Emmanuel Kant, la morale nous viendrait de notre raison. Un homme peut soit suivre la loi de sa raison, donc sa morale, soit se laisser aller à des penchants dictés par sa nature. Par exemple, quand un chat a faim et qu'il a de la nourriture devant lui, il va manger. Alors qu'un homme, en pareille circonstance, pourrait très bien se retenir. Agir moralement consiste à ne pas agir selon un penchant naturel. Par contre, selon Kant, agir moralement consisterait à contraindre nos actes à être universels. C'est-à-dire que nous devrions agir comme nous voudrions que tous agissent. La loi morale est une sorte de tribunal intérieur qui soumet nos actions au test d'universalité suivant. Est-ce que la manière dont je vais agir pourrait être érigée en loi universelle? Par exemple, on ne peut pas vouloir se suicider et vouloir que cet acte devienne une loi universelle, car cela détruirait l'humanité si on faisait tous pareil. Le suicide serait, selon cette logique, immoral, car ce serait se considérer comme une exception ou s'accorder des privilèges. Ainsi, Kant nous dit « Agis uniquement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir, en même temps qu'elle devienne une loi universelle, et traite l'humanité toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen. » Les devoirs moraux seraient donc issus de notre contrainte intérieure, par opposition aux devoirs de droit qui sont, eux, du ressort d'une contrainte extérieure, par exemple les lois ou les règlements de nos sociétés. La liberté interne d'agir moralement, ou non, est d'ailleurs une condition nécessaire dans la création de la morale, car c'est parce qu'un homme pourrait agir autrement que nous lui reconnaissons le mérite d'avoir agi selon la représentation morale, plutôt que d'avoir justement suivi ses penchants naturels. Mais finalement, est-ce qu'elle est innée, cette morale ? Kant estime qu'à la base, tous les hommes sont dignes, de la même dignité. Ici, on voit que chaque homme posséderait donc en lui, à la base, la dignité. Kant oppose la chose qui peut être vendue ou échangée, ainsi dénuée de dignité, d'une personne qui, elle, possède la dignité. Les choses ont un prix, mais les hommes ont une dignité. Mais alors, comment se fait-il que la loi morale soit même présente dans un homme ayant violé, agressé ou commis un crime ? Car évidemment, elle est présente chez Mère Teresa, Bouddha, mais chez les pires personnes, qu'en est-il ? Justement, selon Kant, un homme ne perd pas sa dignité dès lors qu'il n'agit pas par devoir moral et cède justement à ses penchants naturels. Il dit que la dignité est liée à la capacité d'obéissance aux règles, en tant qu'être humain, et non pas à leur obéissance effective. Ça veut dire que, dans les faits, nous pouvons nous comporter de façon indigne, porter atteinte à la dignité d'autrui, mais nous ne pouvons détruire la dignité ni en nous, ni en l'autre, parce qu'elle est inhérente à notre condition de personne humaine. Les mensonges, l'ivrognerie et divers méfaits sexuels, par exemple, portent atteinte à la dignité, mais on ne perd pas notre capacité à ressentir du respect pour la loi morale. Ainsi, Kant nous dit, un larron aime lui aussi le bien, par principe, mais il aime le mal par inclination ou par penchant naturel. L'homme ne fait donc pas honneur à la grandeur dont il est porteur, en traitant son corps comme un moyen de consommation, par exemple. Kant cite comme étant immoral, d'ailleurs, la surconsommation d'aliments, ou encore la souillure par la volupté. Cet entachement de la morale, souvent causé par le plaisir des sens, s'explique selon Kant par le fait que l'homme dépose sa personnalité en se servant de lui-même simplement comme un moyen de satisfaire certaines tendances animales et en ne se traitant pas comme finalité. Il dit que le corps est la manifestation sensible de notre personnalité qui nous permet justement d'exprimer cette moralité. Et les êtres humains ont donc une obligation vis-à-vis de leur corps qui sont de véritables devoirs de vertu. Ainsi, pour en revenir à notre danse, quelque peu dénudée, il s'agit de savoir si cette jeune femme n'a pas outrepassé les devoirs de vertu qu'elle avait envers elle-même, et si elle traitait bien son corps comme une finalité, et non seulement comme un moyen. Kant peaufine également son analyse en précisant qu'il est essentiel d'intégrer dans nos jugements moraux le caractère intentionnel de nos actes. C'est-à-dire que nous devrions tous tenir compte de l'intention de l'acte, afin de le juger moral ou non, et non pas s'attarder sur le résultat de cet acte. Si on va regarder du côté du philosophe Hume, on voit que Kant et lui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Hume a enquêté sur les principes de la morale et selon lui, ce n'est pas l'exercice de notre raison qui détermine si un acte est doté de moralité ou non, mais bien nos sentiments, nos passions, notre instinct, ce qu'il appelle le sens moral. Autrement dit, ce n'est pas la raison, le rationnel qui décide de la valeur d'un acte ou d'un comportement, mais bien nos affects par rapport au dit comportement. Plus particulièrement, ce sont les sentiments de plaisir ou de douleur qu'a une personne par rapport à une autre qui suscitent soit l'approbation de la vertu, soit la condamnation d'un vice. La morale s'enracinerait donc dans l'affectivité. Cela étant dit, selon Hume, ce sens moral doit tout de même se faire aider, être éclairé par la raison, afin de permettre de dégager des règles générales. Selon cette logique, lorsque mon sens moral me fait ressentir un sentiment de douleur, par exemple, et que je qualifie donc un acte d'immoral, c'est peut-être parce que je n'ai pas été assez éclairé par ma raison, m'étant finalement résigné à mes sentiments. Et du coup, qu'en est-il par rapport à mon jugement de cette vidéo et de cette danse ? Je pense que d'une part, mon sentiment de douleur, comme dirait Hume, à l'origine de ma désapprobation de cette vidéo, n'avait sans aucun doute pas été suffisamment éclairé par ma raison. J'étais donc restée bloquée au niveau de mes sentiments. Par ailleurs, le caractère intentionnel des actes, comme décrit chez Kant, est également révélateur de mon mauvais jugement moral. Je m'étais arrêtée au résultat de son action. Cette danse, a priori, me paraissait vulgaire, et j'avais omis le contexte et l'intention, qui était une danse de joie, de bienveillance, qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec un acte d'exhibition. Ici, Nous retrouvons donc l'importance de ne pas attribuer la valeur morale d'un acte exclusivement quant au résultat de cet acte, mais également au regard de l'intention posée lors de l'acte. D'autre part, même si je ne sais pas ce que Kant aurait dit par rapport à cette vidéo, personnellement, avec du recul, cette danse de la joie, même déludée, n'empiète pas sur le concept kantien de devoir traiter son corps comme une finalité. Dans le sens où cette jeune femme traitait son corps non pas comme un moyen pour obtenir quoi que ce soit en retour, mais simplement comme une dévotion à la danse, ainsi qu'à la liberté de pouvoir le faire dans l'habit de son choix. Alors si à ce niveau, on a déjà trouvé certains éléments de réponse, afin d'y voir plus clair, nous nous retrouvons dans 15 jours, afin de nous plonger dans cette fois-ci la généalogie de la morale, afin de savoir d'où elle vient, et nous pencher aussi du côté de la biologie, qui nous interpellera par rapport au rôle clé de la morale dans la survie humaine et la sélection naturelle. D'ici là, je vous invite à réfléchir au dernier jugement moral que vous avez bien pu avoir envers une situation ou envers une personne en particulier, et vous demander d'où il venait. De votre raison, de vos sentiments, était-il justifié ou pas tant que ça finalement avec un peu de recul? N'hésitez pas à partager ces réflexions en commentaire. Avant de vous quitter, je vous laisse méditer sur une courte citation de l'écrivain français Fabrice Colin. Qui définit la morale? Clamera-t-il avec colère. Le monde, et lui seul, pour se protéger de ce qu'il est.